Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Et on revient chez nous pour ouvrir une page santé. On pensait que la tuberculose avait disparu de nos pays occidentaux, entre guillemets, mais elle reste bien présente, en particulier dans plusieurs grandes villes, et notamment à Bruxelles. Et pour nous en parler aujourd'hui, avec nous Aurélie Leloup, qui est chargée de projet au service prévention et promotion santé à Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Également Pauline, qui est aussi chargée de projet prévention et promotion. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être avant d'aller dans le détail du détail, aussi nous rappeler, nous présenter en quelques mots Bruxelles.
Très bien, donc Brusano est un service d'accompagnement aux professionnels de la santé. Donc il y a une plateforme de soins palliatifs. Et à côté de ça, alors c'est plus notre rôle, on fait partie des bassins, des 5 bassins d'aide et de soins sur Bruxelles. Et on fait partie du bassin nord-est qui comprend les communes d'Evers, Scarbeek et Saint-Josse.
Alors pourquoi parler justement de la tuberculose aujourd'hui?
Donc parce qu'on pense souvent qu'elle a été disparue, mais elle reste bien présente à Belgique.
Et là, vous pouvez nous dresser, disons, une situation plus globale chez nous en Belgique.
Oui, alors d'après les chiffres qu'on a obtenus, en 2024, il y avait quand même 900 cas qui étaient détectés en Belgique, dont 280 à Bruxelles. Donc Bruxelles, comme les grandes villes, Liège, oui, etc., sont des villes où il y a une concentration de personnes avec atteintes de la maladie de la tuberculose.
Est-ce que cette évolution est récente? On l'a observée récemment ou bien...
Alors, ça a évolué au cours des années. Aussi, faut le dire que la Belgique reste un pays à faible incidence. Et cette évolution date de quelques années, mais donc ça a toujours été une maladie qui a été déclarée. Mais c'est vrai qu'il y a une petite hausse.
Comment expliquer aujourd'hui cette réalité?
Bon, il y a des facteurs comme la précarité, les difficultés d'accès aux soins ou certains parcours de vie peuvent retarder le dépistage et le traitement. Aussi, le voyage et les flux migratoires jouent un rôle.
Peut-être faire un petit cours d'histoire. Depuis quand cette maladie, en fait, existe, Aurélie?
Alors, elle date de l'Antiquité. Et d'ailleurs, on en a retrouvé des traces chez des momies égyptiennes. Donc c'est une maladie assez ancienne et pourtant elle a été découverte au 19e siècle par un médecin allemand.
Alors on va aller un petit peu dans le détail, concrètement, rappeler qu'est-ce que c'est finalement la tuberculose?
C'est une maladie infectieuse causée par une bactérie qui touche principalement les poumons, les ganglions, les os, les reins. Et donc il y a différentes sortes comme la forme latente ou la forme inactive et aussi la tuberculose active. Et là, il y a donc des symptômes et c'est contagieux. Avec la forme latente ou inactive, il n'y a pas de symptômes.
Justement, comment ça se transmet la tuberculose?
Alors, ça se transmet principalement par voie aérienne. Donc la bactérie vient se poser sur les poumons. Et dans le cas de quelqu'un qui est malade, qui va tousser, elle va transmettre du coup cette bactérie dans l'air et elle va flotter et être inhalée par d'autres personnes. Et donc la contagion peut se passer comme ça. Et généralement aussi dans des espaces plus confinés, mal aérés, il y a un plus grand risque évidemment.
Est-ce que tout le monde est concerné ou il y a plutôt un public cible?
Tout le monde est concerné, mais surtout les personnes sont plus à risque, comme les enfants, les personnes plus âgées ou les personnes avec une immunité affaiblie.
Détecter donc les principaux symptômes, il y a des signes?
Oui, tout à fait. Un des signes les plus intenses, en fait, c'est plutôt des sueurs nocturnes. Oui. Donc, grande fièvre et sueurs nocturnes, une toux qui peut s'accompagner de crachats et parfois même du sang dans les crachats.
Est-ce qu'on peut être, par exemple, porteur de la tuberculose mais sans le savoir finalement?
En effet, comme expliquait Pauline, il y a cette tuberculose latente, donc on est porteur du virus, on n'est pas contagieux, on ne sait pas qu'on l'a. Et effectivement, ça peut durer quelques années sans savoir qu'on l'a en réalité, alors, sans qu'elle se manifeste.
Oui, une double question, qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute et comment se déroule un petit peu le dépistage?
C'est important de consulter le médecin traitant quand vous avez la tuberculose. Et le dépistage, ça roule d'une manière, une radiographie des poumons, des analyses de sang ou un test cutané.
Est-ce qu'il y a des personnes qui devraient se faire dépister plutôt en priorité?
Alors oui, peut-être des personnes qui travaillent avec un public plutôt vulnérable et qui est à risque, qui pourraient être porteurs de maladie. Ces publics-là, ils doivent avoir quand même un peu des mesures de prévention, donc déjà, soit un traitement préventif ou bien tout simplement apporter le masque, etc., respecter des mesures d'hygiène saines.
Oui. Et peut-on guérir de la tuberculose, finalement ?
Oui, tout à fait. Avec un traitement antibiotique, ça dure environ 6 mois. Et quand c'est suivi correctement, on guérit tout à fait.
C'est une maladie grave ?
C'est une maladie grave. Si elle n'est pas traitée, on peut en décéder. Mais ici, en Belgique, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand même, elle est bien prise en charge. Et détecter tôt, encore une fois, ça c'est vraiment notre message de prévention. Consulter tôt avant qu'il y ait quelque chose de plus grave qui s'installe. Oui, ça c'est...
Si vous avez encore un dernier mot, un dernier message à faire passer.
Se faire dépister tôt, c'est de se protéger et protéger les autres. C'est aussi important de contacter le médecin ou la pharmacie si vous avez des questions. Et sur le site de Fares ou le site de Respiratoire Santé, il y a aussi toutes les informations sur la tuberculose.
Voilà, tout ce qu'il fallait savoir donc sur ce sujet. Aurélie Leloup, qui est chargée de projet prévention et promotion santé à Broussano, et également Pauline, qui est aussi chargée de projet. Merci en tout cas pour toutes ces précisions sur la tuberculose, la prévention. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'Info.
Le Carrefour de l'Info sur Arabelle.
Et dans votre carrefour de l'information, c'est l'heure de la pause technique avec Hamza Bellakbir qui vient de nous rejoindre. Bonjour Hamza.
Bonjour Tariq.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez des visites domiciliaires. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors mon cher Tariq, les visites domiciliaires, c'est un mot propre pour une chose plutôt très sale. Imaginez une famille belgo-marocaine qui accueille un oncle, une tante ou un cousin sans papier. Cela nous est tous arrivé. On connaît toutes et tous quelqu'un de notre famille qui est ou qui a été sans papier. Eh bien, visite domiciliaire, ça sonne presque administratif, presque un peu poli, presque un contrôle chaudière. Mais en réalité, on parle d'autoriser la police, parfois accompagnée de l'office des étrangers, à entrer de force dans nos domiciles pour arrêter une personne sans titre de séjour. Entre 5h et 21h, sans consentement des occupants dans le logement de la personne concernée ou chez elle et ceux qui l'hébergent. Donc soyons clairs, ce n'est pas une visite, c'est une intrusion. Quand le gouvernement arizona appelle visite, ce qui ressemble à une rafle, il maquille la violence pour cacher cette mesure honteuse.
Alors le gouvernement se défend en disant que cela vise des personnes dangereuses qui refuseraient leur retour.
Malheureusement, ce n'est ni plus ni moins que de l'emballage, mais il faut regarder le contenu. Le séjour irrégulier relève du droit administratif, pas du droit pénal. Être sans papier, ce n'est pas être un criminel. Confondre statut administratif et menace pour la société, c'est déjà en soi un basculement sémantique puant. Et ça permet d'installer une logique de soupçon collectif. On nous dit ordre public, sécurité nationale, très bien. Tout le monde est mettre en sécurité, vous et moi en premier. Mais ces notions sont trop larges et trop floues. On sait déjà que travailler en noir peut être considéré comme un danger pour l'ordre public. Donc demain, qui sera visé ? Le terroriste ou l'aide ménagère sans papier, le criminel organisé dans le trafic de drogue ou le livreur Uber Eats. À force d'élargir les mots, on finit par rétrécir les droits.
Alors il y aura quand même l'autorisation, il faut le souligner, d'un juge d'instruction.
Oui, mais attention à la belle vitrine juridique. Un juge qui n'a pas accès à tout le dossier, qui autorise une intrusion grave sans contrôle réel après coup, ce n'est pas une garantie pleine et entière. Les juges d'instruction eux-mêmes avaient déjà refusé d'être transformés en presse-bouton. Le domicile dans une démocratie, c'est un sanctuaire. Ce n'est pas seulement 4 murs, une table et un lit. C'est le lieu où nos enfants dorment, où l'on a notre intimité, où l'on garde ses papiers, ses photos, ses secrets. Autoriser l'État à y entrer pour une finalité administrative, sans les garanties du pénal, c'est changer la nature du seuil. Et le seuil d'une maison, c'est aussi le seuil d'une démocratie.
Alors, Hamza, les associations parlent aussi d'une menace contre la solidarité citoyenne.
Évidemment, cette loi ne vise pas seulement les personnes sans titre de séjour, elle vise aussi celles et ceux qui les hébergent, qui aident, qui ouvrent un canapé ou une chambre ou un lit et qui font preuve d'humanité. Imaginez Mariama, d'origine malienne, mère de 3 enfants, 2 sont nés ici en Belgique, réveillée à 5h du matin par des uniformes dans la chambre. Que va comprendre un enfant de 3 ans ? Que la loi protège ou que la peur, malheureusement, porte parfois un badge ?
Alors, il faut rappeler que ce projet avait déjà été combattu, c'était en 2018.
Oui, Et il avait reculé face à une mobilisation très large. Associations, syndicats, juristes, magistrats, citoyens et citoyennes. C'était pas une lubie militante radicale, c'était un sursaut démocratique dans toute la Belgique. Aujourd'hui, l'histoire, elle revient, est plus dure et plus assumée par ce gouvernement. On connaît le risque, mais on nous dit « l'essence du texte restera inchangée ». Mais la société civile se rappellera que les engagés et Verheugt ont trahi en se soumettant à la folie anti-migratoire de la NVA du MR.
Voilà, c'était la chronique post-technique signée par Hamza Belakbir. Merci beaucoup.
Merci Tariq.
On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de votre Carrefour de l'Info. À tout de suite.